Vous êtes avec SBS French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffuserons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce jeudi 16 janvier. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, pour vous accompagner pendant une heure en français. Et au sommaire de cette émission, le journal, les sports, et on parlera aussi du tennis de l'Open d'Australie. Et au sommaire de ce bulletin, Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. C'est ce qu'a confirmé le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans les négociations. La menace de fortes rafales de vent combinée à une humidité sèche mettra à l'épreuve les pompiers qui luttent pour contenir les incendies à Los Angeles depuis la semaine dernière. Et puis Sydney fait face à davantage de chaos ferroviaire ce jeudi alors que la grève se poursuit. Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. C'est ce qu'a confirmé le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans les négociations. Le Premier ministre qatari Mohamed bin Abdul Rahman Al Thani a détaillé l'accord qui va entrer en vigueur dimanche 19 janvier avec une première phase qui va durer 42 jours.
The agreement will enter into effect on Sunday, January 19th. The exact timing will be identified later. The phase one of the agreement will go on for 42 days, and it will include a ceasefire and the withdrawal of Israeli forces to the east, away from populated areas. Israeli forces will then be positioned along the Gaza border, and which will allow for the swap of prisoners as well as the swap of remains and the return of the displaced people to their residences.
Les conseillers du président élu des États-Unis, Donald Trump, se retirent discrètement de sa promesse de campagne de mettre fin au conflit entre la Russie et l'Ukraine dès le premier jour de son mandat. Selon certaines informations, deux conseillers de Donald Trump admettent désormais qu'il faudra probablement des mois pour négocier un accord. La menace de fortes rafales de vent combinée à une humidité sèche mettra à l'épreuve les pompiers qui luttent pour contenir les incendies à Los Angeles. La chef des pompiers de Los Angeles, Christine Crowley, affirme que le danger persiste et exhorte les résidents à donner la priorité à la sécurité.
As we enter into the third day of this additional wind event, I urge everyone to stay alert. The combination of low humidity and strong winds has further dried out the brush, increasing the risk of fire. The danger has not yet passed, so please, please prioritize your safety.
Le Vanuatu a demandé de nouvelles aides à l'Australie et à d'autres partenaires de développement alors que les tensions communautaires s'intensifient autour du rythme de rétablissement de Port Vila après le tremblement de terre du mois dernier. La secousse de 7,3 survenue le 17 décembre a tué au moins 14 personnes, en a blessé des centaines et en a déplacé de nombreuses autres personnes. Les responsables de Vanuatu reconnaissent que ce bilan pourrait ne pas être définitif. Un mois après le séisme, la réponse est passée d'un effort humanitaire et de sauvetage à une reconstruction avec priorité à la reconstruction des quais, des routes et des ponts. En Australie, Sydney fait face à davantage de chaos ferroviaire ce jeudi alors que la grève se poursuit. Environ 40% des services ont été annulés hier et puis les services ont ensuite été considérablement réduits après 21h hier soir. La situation a été aggravée par des conditions de météo extrêmes qui ont abattu des arbres sur les lignes et affecté des parties du réseau. On écoute la réaction des usagers des transports en commun.
No, I don't drive, I depend on the train. My problem is there's no buses between Gordon and Lynfield. So I'm in a small station, if sometimes the trains don't stop at Killara. So I depend on the train. So when they go on strike or something happens, I'm gone. And I have to get an Uber or a taxi, or and the prices are quite high now.
But yeah. Today, what did you do?
Today I got on the metro. Thank God the metro was working. If not, I've been having a big problem because I don't drive. Yeah.
Un changement pourrait bientôt survenir dans la manière dont l'obésité est mesurée. Un groupe d'experts souhaite que les taux d'obésité ne soient plus calculés uniquement par l'indice de masse corporelle qui s'appuie principalement sur la taille et le poids d'une personne pour mesurer le pourcentage de graisse corporelle. Au lieu de cela, les médecins prendraient en compte d'autres facteurs tels que les antécédents médicaux d'une personne avant de poser un diagnostic. La présidente du département de chirurgie de l'Université Monash, la professeure Wendy Brown, affirme que l'indice de masse corporelle a longtemps été considéré comme problématique en raison des inquiétudes selon lesquelles il s'agit d'un moyen inexact de déterminer les problèmes de santé.
So if you're an athlete and you weigh 100 kilos and you're solid muscle, your BMI might flick up to 30, but you're obviously a really healthy person because you're lean and you're fit and you're active. But if your BMI is 30 and that's largely made up of fat, particularly if that fat's carried around the central area or around your heart, then that becomes an unhealthy situation.
Les Australiens ont fortement réduit leurs achats de biens ménagers après avoir anticiper leurs dépenses lors des soldes du Black Friday et du Cyber Monday. La Commonwealth Bank a constaté que les dépenses de consommation ont chuté de 1,8% en décembre après une hausse en novembre. Les ménages aux prises avec des difficultés financières adaptant leurs habitudes d'achat pour donner la priorité aux périodes de soldes. L'indice des dépenses des ménages de la banque a enregistré une baisse de 7,7% des dépenses, renforçant l'opinion selon laquelle les consommateurs australiens continuent de lutter contre le coût de la vie chère. La Chambre des représentants des États-Unis a approuvé une nouvelle loi visant à interdire aux athlètes transgenres de participer au sport féminin dans les écoles et autres établissements d'enseignement recevant des fonds fédéraux. La législation a été approuvée. Deux démocrates ont rejoint les républicains pour soutenir le projet de loi. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a déclaré à ses partisans rassemblés au Capitole qu'il s'agissait d'un vote visant à protéger les droits des femmes.
This is a commitment that we have made because it comports with what is right and what is common sense. We know from scripture and from nature that men are men and women are women and men cannot become women. It's sad that we have to say that. It's a matter of biology, it's how we're made and if we try to ignore that or to undo it, we do so at our peril and to the detriment of our daughters.
Et on passe à la météo pour ce jeudi en Australie. À Perth, maximale de 39 degrés, Adélaïde 26, Melbourne 21, Hobart 23, Canberra 23, Sydney 24, Brisbane 35, Darwin 32 et à Alice Springs, maximale de 37 degrés. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Cinquième jour de l'Open d'Australie à Melbourne, où nous attend notre collègue Marianne Murat. Marianne, bonjour, des rendez-vous à ne pas manquer aujourd'hui, surtout avec papa mon fils.
Oui, bien sûr. Bonjour Jean-Noël, bonjour à tous. Alors, en deuxième jour de la compétition, les yeux sont rivés sur le vétéran français, vous l'avez dit, Gaël Monfils qui joue son deuxième match, et le tennisman français de 38 ans l'a dit en conférence de presse avant-hier, il est extrêmement fatigué, surtout que son dernier match contre son compatriote Giovanni Pecci-Péricard a duré près de 4 heures, 5 sets et un score très serré au final. On verra bien ce que Gaël Monfils est capable de donner aujourd'hui, hein. Il joue l'Allemand Daniel Altmaier, 26 ans. En tout cas, ce que l'on sait Jean-Noël, c'est qu'il en est déjà à sa sixième victoire en 2025, qu'il vient juste de remporter le tournoi d'Auckland la semaine dernière et que c'était son 13e titre, le 13e titre de sa carrière. Deuxième Français à jouer aujourd'hui, c'est Corentin Moutet. Les statistiques sont en sa faveur. Le jeune Français de 25 ans, classé 69e, affronte l'Américain Mitchell Krueger, 146e.
Et les têtes d'affiche étrangères, Marianne ?
Aujourd'hui, on attend de regarder la Tunisienne Ons Jabeur, la numéro 2 Iga Swiatek, le numéro 4 Taylor Fritz, le chouchou des Australiens Alex de Minaur, le numéro 1 mondial et tenant du titre Jannik Sinner ou encore Daniil Medvedev, sous le coup d'une sanction après son coup de sang lors du match d'avant-hier, lorsqu'il s'en est pris Jean-Noël au filet.
Et du côté des Français, est-ce qu'on peut faire le point sur les deux derniers jours ?
Oui, bien sûr. Alors, sur les deux derniers jours, il y a eu à peu près autant de défaites que de victoires côté tricolore. Déjà, Adrien Manarino a été éliminé dès le premier tour, puis hier, défaite d'Arthur Cazot au deuxième tour. Et Hugo Gaston a, lui, abandonné sur blessure lors de son deuxième match. On l'écoute.
J'ai ressenti une douleur aux abdos. J'ai une petite lésion qui est arrivée sur mon premier tour, au milieu du troisième set. Voilà, j'avais fait des soins, une échographie avec le docteur de la Fédé et je suis rentré sur le terrain parce que j'avais pas envie de ne pas jouer ce match. J'ai essayé de faire mon maximum. Je savais que ça allait être très compliqué, mais voilà, c'était la douleur était de plus en plus intense, donc c'était très compliqué. Triste de devoir abandonner, mais je pense que c'était le bon choix à faire aujourd'hui.
Autre mauvaise nouvelle, c'est qu'hier il y avait encore un derby tricolore, donc on était sûr de perdre un Français de plus. C'était Arthur Fils contre Quentin Alice. Le match a été suspendu à cause de la pluie. D'ailleurs, ça n'a pas été le seul match suspendu. Ils ont tous repris. Mais voilà, ça n'a pas empêché Arthur Fils, classé 20e mondial, de l'emporter en 4-7. Au troisième tour, il affrontera encore un autre de ses compatriotes, décidément, Hugo Humbert, vainqueur du Libanais Adi Habib. Alors Jean-Noël, pour la belle histoire hier, Adi Habib, il est classé 219e mondial. Eh bien, c'était le premier Libanais à rejoindre le deuxième tour du Grand Chelem. Il a fait un très bon match, il s'est très bien battu. Score final 6-3, 6-4, 6-4. On le disait, deuxième derby tricolore de la semaine vendredi. Arthur Fils contre Hugo Humbert. On écoute ce que les deux joueurs en pensent. Arthur Fils d'abord, puis Hugo Humbert.
C'est cool de jouer Hugo, on s'entend bien, on est des bons potes. Le dernier match qu'on s'est fait, on s'était envoyé une belle partie. Je pense lui comme moi, on va essayer de faire pareil, de se faire plaisir sur le terrain parce que je pense que ça va être un match sympa. Je sais pas si on va avoir un grand cours encore, mais on va voir. Mais je vais faire mon mieux.
Moi, je ressens pas forcément plus de pression. Je vais faire mon match. Et puis voilà, ça va être encore un super match. Ce qui est cool, c'est pour le tennis français, il y aura un mec en deuxième semaine. Donc ça, c'est ultra positif. Puis je vais essayer de faire le maximum pour que ça soit moi. Ouais.
Et puis, Marianne, il y a eu des victoires notables chez les Bleus.
Oui, celle de Benjamin Bonzi, hein, notamment. Le 64e de 28 ans a éliminé l'Italien Francesco Passaro en 4-7, malgré des conditions météo déplorables hier qui l'ont déstabilisé. Écoutez.
Le plus gênant, c'est pas tant le soleil ou la température, c'est vraiment le vent qui, en fait, qui va un peu dans tous les sens et qui est assez aléatoire. Par moments, ça souffle fort, par moments, ça souffle pas du tout. Et on peut pas s'habituer à quelque chose et des conditions, en fait, elles changent tout le temps. Tu peux lancer ta balle au service, puis d'un coup elle part à 2 mètres et tu te retrouves dans des trucs un peu compliqués ou des balles qui n'ont pas grand-chose au milieu du terrain. Il suffit que ça souffle un peu, elle se décale. Et moi, ce qui me dérange le plus, c'est ouais, ce, vraiment ce vent qui tourne en permanence. Quoi.
Bon, au final, Benjamin Bonzi s'est qualifié pour le troisième tour. Tout va bien. Il a eu un soutien de taille, ça l'a sûrement aidé. Celui des supporters français venus l'acclamer. Ils ont crié fort, ils sont infatigables, ils ne comptent pas s'arrêter là. On les a rencontrés.
En fait, on se réunit depuis le début, on donne de la voix, on crie et on prend du miel et des pastilles parce que la voix, elle suit pas. Mais nous, on suit tous les joueurs, tous les Français et on est très fiers d'eux et très fiers d'être Français.
Et on crie pour nos Français, pour les supporter.
Allez les Bleus, tout simplement.
Et enfin, on parle des Français, mais il y a aussi les Françaises Jean-Noël, ou plutôt la Française, puisqu'il n'y en a plus qu'une seule en lice. C'est Varvara Gracheva qui passera d'ailleurs numéro 1 France après le tournoi à cause des éliminations de ses compatriotes au premier tour. Varvara Gracheva qui affronte l'Allemande Eva Lis cet après-midi.
Et puis Marianne, un dernier mot sur les francophones à l'Open d'Australie?
Alors malheureusement, la Belge Elise Martens s'est fait sortir par la numéro 7 Jessica Pegula. L'Américaine n'a fait qu'une bouchée d'Elise Martens, 6-4, 6-2, 1h12 de match seulement. Pour ce qui est de Félix Auger-Aliassime, ça a démarré pourtant bien avec deux premiers sets gagnants, mais le Canadien a perdu en puissance après 2h30 de match pour au final s'incliner en 5-7 face à l'Espagnol Alejandro Davidovich-Fokina après un match de presque 5 heures tout de même.
Et il rentre au Canada. Merci Marianne, à bientôt.
Avec plaisir, merci Jean-Noël.
Eh bien, après le tennis, on vous propose maintenant d'autres nouvelles sportives avec le Vendée Globe, Charlie Dalin qui a remporté la 10e édition en temps record l'autre jour, en 64 jours, 19h, 22 minutes et 49 secondes, battant de plus de 9 jours celui signé par Armel Lecléache lors de l'édition 2016-2017, en 74 jours, 3h, 35 minutes. On écoute d'abord la réaction de Charlie Dalin.
Jamais vécu des émotions pareilles. C'était de la folie là. Cette ligne d'arrivée avec la lumière comme ça du jour qui commençait à percer. J'ai jamais vécu ça de ma vie. C'était incroyable. C'était incroyable comme moment. C'était de la joie. C'est la plus belle ligne d'arrivée de toute ma carrière, de loin. Incroyable. Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain de l'arrivée du Vendée Globe 2020. Et c'est 4 ans que je me suis battu avec l'équipe, qu'on a travaillé dur. Super heureux de ce résultat, c'est génial. Quoi. Le Vendée Globe, la victoire du Vendée Globe, c'est quelque chose d'unique. Et c'est super, je sais même pas quoi dire tellement je suis heureux d'être de retour au sable avec un record en plus.
Analyse de cette édition 2024-25 avec Thomas de Saint-Léger pour Radio France Internationale.
Cette fois, sur le chemin du port, Charlie Dalin peut profiter de la haie d'honneur sans amertume ni calcul. Pas de Covid pour éloigner la foule, pas d'adversaire menaçant, sa victoire est totale.
Cette ligne d'arrivée avec la lumière du jour qui commençait à percer, c'était incroyable. Ce Vendée Globe 2024, j'en rêve depuis le lendemain de l'arrivée du Vendée Globe 2020. Ça fait 4 ans qu'on vit pour ça.
4 années de travail acharné avec son équipe à terre, mettre au point le meilleur bateau possible, anticiper tous les scénarios de course. Architecte naval de formation, Dalin est un perfectionniste doublé d'un compétiteur hors pair, Michel Desjoyeaux, unique double vainqueur du Vendée Globe.
Tu vois qu'il a maîtrisé son sujet, tu vois qu'il est encore plus mature qu'il l'était il y a 4 ans. Quelqu'un de très posé, très réfléchi, très pragmatique. Certes, moins dans l'émotion que certains, il va peut-être pas faire pleurer la ménagère de moins de 50 ans, n'empêche qu'il a gagné un Vendée Globe complètement, il avait presque gagné la dernière fois.
Et comme il y aura toujours ce presque, Charlie Dalin ne sera jamais totalement satisfait, à moins de remettre ça dans 4 ans.
Je suis heureux de partager avec lui le fait d'avoir franchi deux fois en premier la ligne d'arrivée de cette course mythique. Il faudrait que je revienne une troisième fois pour le rejoindre au club de la double victoire.
Mais ça, c'est pour après. D'abord, Charlie Dalin va profiter, prendre un vrai repas. Hamburger frites, c'est son souhait. Les plaisirs simples d'un héros discret.
Et maintenant, la réaction de François Gabart, qui était le vainqueur de 2013.
Je suis pas surpris parce que ces bateaux progressent énormément. On sait bien, dès la conception, là, on savait que ces bateaux pouvaient aller très vite. On l'a vu à l'entraînement, Charlie, arriver à maintenir des vitesses moyennes très élevées. Donc non, je suis pas surpris. Et même d'ailleurs, l'édition précédente était anormalement lente, avec des conditions météorologiques très particulières qui faisaient que les bateaux ont été ralentis. Alors là, c'est pour le coup, les conditions météo étaient favorables, on a bien progressé, mais si on regarde les progrès qui avaient été faits en 8 ans auparavant, entre 2016 et 2008, ou entre 2008 et sur deux éditions, finalement, on progresse à peu près de 4-5 jours chaque édition, et ça depuis 30 ans. Et donc là, on a progressé 10 jours ou 9 jours en deux éditions. Non, c'est finalement assez conforme aux progrès qu'on arrive à faire avec nos bateaux.
Le Dakar, et après la 10e étape hier, le Sud-Africain Henk Lategan a repris la tête du classement général. En moto, au classement général, c'est l'Australien Daniel Sanders qui reste en tête devant l'Espagnol Tosha Schkarena. C'est le Sud-Africain Michael Doherty qui a gagné l'étape d'hier. On passe au foot, la Coupe de France, 16e de finale, plusieurs matchs hier, comme nous l'explique Alban Le Prince pour RFI.
Trois clubs de Ligue 1 se sont fait éliminer ce soir en 16e de finale et la défaite la plus retentissante, c'est celle de Lyon, éliminée par le petit club de National 3 de Bourgoin-Jallieu au tir au but. Les Bergaliens peuvent remercier leur gardien Ronan Jay qui a repoussé les deux premières tentatives lyonnaises d'Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.
Aujourd'hui, on vient de réaliser quelque chose qui va nous marquer à vie, qui va nous unir toute la vie tous ensemble. Donc c'est incroyable et il faut donner du crédit à tout le monde, que ce soit au staff, aux joueurs, à la mairie, à tous les bénévoles qui sont là aussi pour encadrer. Parce que c'est pas qu'une victoire des joueurs, c'est une victoire aussi d'un club et d'une ville. Il suffit de regarder les cotes avant le match, hein, on n'était pas favoris, ça c'est sûr. Mais on a été tous solidaires tous ensemble. Il y a eu beaucoup d'abnégation, parce qu'il y a eu des moments très durs. Quand une personne faisait une erreur, l'autre la rattrapait. Donc voilà, on a représenté les valeurs de la ville, les valeurs du club. Et on espère, voilà, là on va se donner encore un tirage et voir un petit peu ce qu'on va faire. Profiter de la soirée quand même, ce qu'on vient de faire, c'est pas anodin. Et peut-être qu'elle se reproduira jamais. Mais il faut profiter et se remettre au travail un petit peu après. Mais bien profiter surtout.
Et les autres scores du jour, victoire de Cannes 2-1 sur Lorient, Brest s'est imposé sur le même score face à Nantes, défaite de Rennes à 3, 1-0, Laval s'est incliné sur la pelouse de Toulouse, 2-1, Paris se qualifie pour les huitièmes en battant Espaly, 4-2.
Mardi, l'Olympique de Marseille a été éliminé par Lille et Monaco éliminé par Reims au tir au but. Qui va remplacer Didier Deschamps comme sélectionneur des Bleus? Ce serait probablement Zinedine Zidane. Explication Solène Ravenel pour RFI.
L'ancien numéro 10 des Bleus pourrait enfin arriver sur le banc des tricolores. À 52 ans, il coche toutes les cases. Champion du monde en 98 et d'Europe en 2000 en tant que joueur, aux côtés d'ailleurs d'un certain Didier Deschamps. Zizou a également eu des résultats probants en tant qu'entraîneur avec le Real Madrid, seul club qu'il ait entraîné. 11 trophées avec le Real et un incroyable triplé en Ligue des Champions 2016, 2017, 2018. Zinedine Zidane, véritable légende du sport français, a toujours fait part de son envie d'entraîner un jour les Bleus. La porte ne s'est pas ouverte ces dernières années, la fédération préférant confirmer Didier Deschamps porté par ses excellents résultats. Cette fois-ci, c'est Didier Deschamps lui-même qui affirme qu'il quittera la sélection après 2026, un bail de 14 ans. La voie est donc enfin libre pour Zinedine Zidane, car sans faire injure aux autres postulants, il est difficile d'imaginer qui pourrait le concurrencer. Peut-être Thierry Henry, qui a mené avec brio l'été dernier l'équipe de France en finale des Jeux Olympiques.
Il y avait des matchs du championnat d'Angleterre hier, dans le cadre de la 21e journée, avec la victoire d'Arsenal, qui a battu Tottenham 2-1, Newcastle 5e, a battu Wolverhampton 3-0, et Aston Villa, 8e au classement, a battu Everton 1-0. En Italie, l'Inter Milan et Bologna ont fait match nul, 2-2. En Allemagne, le Bayern de Munich a écrasé Hoffenheim 5-0. En Espagne, la Coupe du Roi, avec la victoire écrasante du FC Barcelone contre Betis Séville, 5-1. Leganés a battu Almeria, 3-2. L'Atlético de Madrid s'est imposé contre Elche, 4-0. Un mot du championnat du monde de handball masculin qui a débuté en Croatie, au Danemark et en Norvège mardi. La France a battu le Qatar mardi 37-19. Et voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Et maintenant, un retour à l'Open d'Australie et on part à la rencontre de Younes El Aynaoui, ancien tennisman marocain qui est ces jours-ci le coach de Hugo Gaston, le jeune français. Il est avec Marianne Murat.
Vous écoutez le français sur Radio SBS.
En direct de l'Open d'Australie 2025, nous sommes avec Younes El Aynaoui. Younes, bonjour.
Bonjour Marianne.
Vous êtes un ancien joueur professionnel marocain. Votre carrière a duré de 1990 à 2017. Vous vous êtes retraité depuis pas très longtemps. Vous êtes maintenant coach et notamment le coach du joueur français Hugo Gaston.
Voilà, tout à fait. Donc après une longue carrière bien remplie, j'ai décidé de accompagner les jeunes. Donc j'ai fait 2-3 ans avec la fédération et là depuis un an et demi en privé avec Hugo.
Alors on va en parler justement de votre carrière. Avant cela, un mot sur Hugo Gaston. Il a abandonné au deuxième tour sur blessure. Qu'avez-vous pensé de ce match ?
Oui, alors il a eu un bon premier tour contre une wildcard australienne où il a joué en 4-7. Malheureusement, il a senti une petite douleur aux abdominaux à la fin du match. Il y avait 2 jours de repos entre son premier tour et son deuxième tour. Ça n'a pas suffi pour qu'il récupère complètement. Et après un set et quelques jeux dans le début du deuxième, il a préféré abandonner plutôt que d'aggraver cette blessure. Donc voilà, un petit peu déçu quand même.
Vous êtes déçu ou il est déçu ?
Ah ben moi, c'est sûr, mais j'imagine que lui aussi, même si peut-être il n'a pas trop montré en conférence juste après le match, c'est sûr que c'est une déception. Perdre comme ça, pas pouvoir défendre ses chances, c'est toujours râlant pour un sportif.
Vous pensez que c'était la bonne décision d'arrêter pour se préserver ?
Je crois que oui, parce qu'il avait quand même fait une échographie la semaine dernière. Enfin, il y a 2 jours, il avait une petite lésion d'1 centimètre au niveau des abdos. Donc, en n'étant pas à 100%, c'est difficile de défendre ses chances. Et puis, surtout, une lésion comme ça, ça peut s'aggraver. Ensuite, l'éloigner des cours pendant plusieurs semaines. Alors que là, espérons qu'il pourra être rétabli pour le prochain tournoi qui est maintenant dans 2 semaines à Montpellier.
Et quant à vous, Younes El Aynaoui, 5 titres dans votre carrière professionnelle, dont 3 quarts de finale, c'était en 2003. Vous en gardez, j'imagine, un merveilleux souvenir.
Oui, l'Australie, ça reste un endroit spécial pour moi. J'ai atteint 2 fois les quarts de finale en 2000, puis en 2003. Et voilà, je crois que tous les joueurs apprécient de venir ici. Et puis quand on réussit à faire des bonnes performances, on est encore plus content.
Vous avez parlé de l'Australie, justement, il y a eu un moment historique puisque vous avez marqué l'histoire des grands chelems. Vous avez fait un match en 5-7 qui a duré 5 heures, dont le 5e set le plus long de l'histoire. Parlez-nous-en.
Oui, c'est vrai qu'en 2003, en quart de finale, j'affronte l'Américain Andy Roddy, qui était une tête de série à cette époque. Le tour d'avant, j'avais battu Leighton Hewitt, qui était le numéro 1 australien. Et donc là, balle de match, malheureusement, ça n'a pas passé. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui se souviennent de ce match, de par sa longévité, de par le fair play qu'il y a eu tout au long du match. Donc je suis très fier d'avoir participé à ce match et ça fait plaisir de revenir en Australie. Les gens se souviennent encore, presque 20 ans, un peu plus de 20 ans même après avoir disputé ce match. On vient souvent m'en parler et c'est une fierté pour moi.
Roddy qui est devenu numéro 1 d'ailleurs après ce tournoi, vous avez l'habitude des numéros.
En 2003, il a fini l'année numéro 1 puisque bon, il perd en demi. Après notre marathon, il était un peu atteint donc il n'a pas pu vraiment défendre ses chances. Mais il gagne l'US Open fin de l'année 2003 et il finit numéro 1 effectivement.
Et on parlait de la blessure d'Hugo Gaston et à l'instant de Roddy qui n'était pas très en forme. Vous parlez d'expérience puisque vous avez mis votre carrière en pause pendant 3 ans pour blessure également.
Exactement, je crois que ça fait partie de la carrière d'un sportif. Les blessures, tôt ou tard, elles arrivent. Pour ma part, ça a été la cheville. J'ai eu 2 interventions chirurgicales, mais j'ai pu revenir. Ça fait partie du boulot. J'ai aujourd'hui un fils qui est professionnel de foot et j'essaie de le mettre en garde que voilà, le corps, il faut ménager sa monture et les blessures, quand on s'entraîne à ce rythme et à cette intensité, elles finissent par arriver. Il faut espérer que ça soit pas trop grave.
Et là, maintenant que vous êtes retraité, mais coach, tout va bien physiquement ?
Oui, là maintenant, je force plus sur la machine, comme on dit. On fait attention plus à Hugo, c'est lui qu'on essaye de bichonner pour qu'il puisse enchaîner les matchs. Bon, ça arrive, on est, comme je viens de le dire, un peu déçu, mais voilà, on va essayer de soigner le plus vite possible et reprendre le chemin de l'entraînement.
Vous pensez que vous êtes un coach différent, déjà d'une, d'avoir été professionnel bien entendu, mais d'avoir été blessé ?
Oui, bon, dans le milieu, il y a beaucoup d'anciens joueurs qui coachent les plus jeunes aujourd'hui. Voilà, moi j'essaie de le mettre en garde contre l'alimentation, contre le sommeil, tout un peu cette hygiène de vie qui peut éviter de se blesser. Mais voilà, je crois que le rythme du circuit, l'intensité des tournois, les voyages fait que les joueurs sont un peu plus fragiles aussi. La violence avec laquelle ils frappent dans la balle aujourd'hui, et ça les rend plus vulnérables. Mais voilà, j'essaie de conseiller bien sûr cet aspect-là aussi.
Gaston, Moutet, Cazot, Humbert, Bonzi, j'en passe, j'en oublie très certainement. Qu'est-ce que vous pensez de cette jeune génération tricolore ?
Ouais, c'est vrai que souvent on entend dire « Ah, le tennis français ne va pas bien parce qu'il n'y a personne qui est dans les 10 premiers ». Mais comme vous venez de le dire, il y a une énorme densité de joueurs qui sont entre 30 et 100. Et je crois que c'est la nation qui a le plus de joueurs. À la fin de l'année, ils ont fini 12 joueurs dans le top 100, 12 joueurs français. Alors espérons que ça crée un engouement et puis qu'ils se motivent les uns les autres. Et bien sûr, je crois que la France attend un vainqueur de grand chelem. Pourquoi pas un joueur parmi tous ces noms que vous venez de citer. Il y en a qui éclos un peu plus tard. Bien sûr, on voit des Alcaraz, on voit des Rune qui sont très jeunes, très performants. Mais je crois qu'il y a une bonne mentalité. Ils ont tous une bonne attitude, ils travaillent bien. Donc je suis sûr qu'il va y avoir de beaux résultats.
Il y a la jeune génération, mais il y a aussi le vétéran du tennis, Gaël, mon fils, 38 ans, 4 mois. Que pouvez-vous dire de ses performances ?
Ouais, c'est vrai qu'on l'a vu hier batailler pendant 5-7, je crois que c'est super. Giovanni, ça devait être un de ses idoles, Gaël, quand il était jeune. Donc les voir comme ça, surtout l'image après le match, on les a vus tous les deux pédaler côte à côte sur le vélo. Je crois que c'est, on a connu ça il y a quelques années avec les Espagnols. On avait appelé l'Armada espagnole où il y avait plein de joueurs espagnols. Et aujourd'hui, ben, c'est la France qui compte le plus de joueurs parmi les 100 premiers et le plus vieux aussi. Donc, en tout cas, chapeau à Gaël et on espère le voir encore pendant longtemps.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Votre communauté, vos conversations. SBS French. Communauté, vos conversations. SBS French.
Nous avons dans le studio Alex Pent, qui est le fondateur et directeur de Wild Live dans le cadre du festival Solar Odyssey, et aussi des interprètes Malo, Issé et Geoffrey. Bonjour et bienvenue à vous tous.
Bonjour.
Bonjour.
Salut.
Bonjour.
Et on va peut-être commencer par vous, Alex. Parlez-nous de ce périple. Solar Odyssey 2025, il y a eu, je crois, 14 spectacles et là, vous êtes dans la dernière ligne droite.
Tout à fait. Donc l'idée de Solar Odyssey, c'est de faire venir trois artistes français qui ne se connaissent pas, qui vont tourner en Australie pendant 3 semaines et qui vont faire un total de 14 dates. Donc ils ont commencé à Woodford Folk Festival, ils ont joué 4 fois chacun. Et ensuite, on a joué à Sunshine Coast, Brisbane, Byron, Sydney, Noanoor, on est à Minion dimanche. Et là, on enchaîne avec Melbourne demain, Geelong, Torquay et Castlemaine. Voilà, une longue aventure le long de la côte australienne. Ça leur permet de découvrir le pays et puis de se découvrir entre eux aussi.
Et un beau bilan pour l'instant ?
Eh ben ouais, pour le moment, c'est super. On a une bonne réponse du public. Ce qui est assez incroyable, c'est qu'on voit des gens qui les ont vus à Woodford, qui reviennent au concert ensuite. Et on a même des personnes qui viennent. On a des gens qui les ont vus à Woodford, qui sont venus à Brisbane, qui sont revenus à Byron. Ce week-end, on jouait à Minion. Des gens qui ont tellement adoré qu'ils ont racheté 8 tickets pour venir à Melbourne demain soir. Donc je crois que ça, c'est la meilleure réponse du public. C'est comme ça qu'on arrive à savoir vraiment s'ils apprécient. Les gens reviennent. Et on parle beaucoup à leurs amis aussi. Donc une grosse partie du public nous dit à chaque fois « Ah, c'est un tel qui m'en a parlé, c'est génial. » Et donc voilà, c'est une belle aventure.
Le jeudi, vous serez à Geelong ?
Et donc le jeudi à Geelong, le vendredi, comme je disais, à Torquay. Et on termine par une French Garden Party à Castlemaine, samedi, avant qu'ils repartent tous dimanche.
Alors, on va peut-être demander aux interprètes de se présenter, à commencer peut-être par vous, Issé. Parlez-nous de vous, qui êtes-vous ? Vous êtes sur la scène musicale depuis combien de temps ?
Je m'appelle Issé. J'ai un projet de chansons pop, folk, je dirais. Et ça fait 2 ans que mon projet existe. J'ai sorti 2 EP qui s'appellent Oser Rêver, Et voilà, c'est une belle aventure. On arrive à... J'ai beaucoup tourné en France, mais c'est vrai que c'est assez, assez magique, quoi, de pouvoir traverser les frontières avec ces chansons en français. J'aurais pas parié sur l'Australie, donc merci Alex de nous faire vivre des trucs un peu fous comme ça.
Et comment a été l'accueil du public australien ?
Franchement, hyper chaleureux, je dirais. Très bienveillant. Commencer par Woodford, le festival à Woodford, c'était assez bluffant, je trouve, comme accueil. Enfin, il y a une véritable écoute, quoi. C'est un festival où les gens aiment profondément la musique et viennent pour en écouter. Donc, il y a une espèce de... Ouais, une vraie écoute, quoi. C'est assez, assez magique, je trouve. Et du coup, ouais, on a eu que des bons échos sur la tournée. J'ai l'impression que notre combinaison de jouer tous les trois ensemble, ça marche bien. Ça fait une soirée assez variée en termes de style. Et les gens ont l'air ravis. Donc, on est contents.
Et vos impressions de l'Australie pour le moment ? C'est la première visite, j'imagine ?
Oui, c'est la première fois. Bah, magnifique, c'est chouette d'être en plein été, de ne pas avoir à vivre le froid à Paris. Et je voulais voir des kangourous, c'était mon espèce d'objectif. Et on en a vu deux hier, donc je suis très contente.
Alors, on passe à vous.
Oui, je m'appelle Geoffrey Le Goisiou, je suis auteur, compositeur, interprète... aujourd'hui, j'écris en français, mais le premier album qui est disponible, qui s'appelle Somewhere Quiet, c'était que j'ai sorti en 2022. C'est un album que j'ai écrit totalement en anglais, et c'est ce qui a lancé le fait d'être auteur-compositeur et de pouvoir jouer en France dans un premier temps, et aujourd'hui, avec beaucoup de chance, en Australie.
Et c'est une première visite pour vous
ici ? Oui, complètement. J'aurais jamais imaginé, même. Passer des vacances en Australie, ça me semblait tellement loin et ouais, donc c'est assez incroyable d'être là aujourd'hui et surtout faire de la musique et que cette musique que j'ai écrite dans ma chambre m'amène un jour à traverser le monde pour jouer devant des gens. Voilà, donc super heureux d'être là.
Et on passe à vous, Malo.
Bonjour.
Vous êtes franco-australien ?
Oui.
Vous avez grandi en Australie ?
J'ai grandi en Normandie, à Caen précisément, et je suis venu en Australie pour rencontrer ma mère que je ne connaissais pas quand j'avais 15 ans à Sydney.
Et la tournée, comment ça se passe ?
Ça se passe super bien. Franchement, c'est une expérience humaine extraordinaire. Déjà, le concept sur le papier est extraordinaire, le fait de runner des shows intégralement à l'énergie solaire, je trouve ça super innovant et je suis très fier de communiquer en tout cas autour de ça et d'avoir rencontré deux fabuleux artistes avec lesquels on partage tous les jours trois semaines de tournée, c'est merveilleux, donc non, ça laissera des souvenirs à vie, c'est certain. Et j'avais déjà eu l'occasion de venir en Australie l'année dernière pour deux festivals, pour So Frenchy So Chic à Melbourne et à Sydney, et là revenir plus longtemps, c'est encore plus agréable parce qu'on prend plus de temps et on découvre des endroits que moi j'ai jamais vu, plein d'endroits que j'ai jamais fait, donc non, c'est un petit rêve qui se réalise.
Et on n'a pas tellement parlé de votre parcours. Vous êtes sur la scène musicale depuis combien de temps?
Disons que ça fait un peu plus d'une dizaine d'années que j'écris des chansons. J'ai signé mon premier contrat en 2012 à Paris, alors que j'habitais en Australie. Finalement, c'est un label français qui m'a rapatrié. Donc voilà, ma carrière se passe principalement en France. Mais je suis super content de voir que voilà, ça fait deux ans de suite que je reviens ici. Et je me sens très grateful.
Grateful. Et vous chantez principalement en français ?
En français, ouais. Au tout début, je chantais plus en anglais. Mais pareil, j'ai pris le pas, un peu comme Geoffrey, de chanter plus en français. En fait, je trouve que finalement, il y a une poésie qui est difficile à adopter au départ. Et puis, avec le temps, on y prend goût et c'est chouette.
On parle un petit peu de vos projets pour 2025. Issé, vous allez faire quoi après la tournée australienne ?
Dormir. Non, j'ai rigolé. J'ai pas mal de dates en France, donc je vais sortir de l'avion et puis continuer de faire des concerts. Mais j'enregistre là, je finis d'écrire mon premier album. Donc l'idée, ça va être de l'enregistrer dans l'année pour qu'il puisse sortir en 2026. Donc ça va être une belle année, créative, je pense. Ouais.
Et vous, Geoffrey ?
Alors déjà, oui, aussi, récupérer le jet lag en revenant, pareil. Et quand j'arrive, pareil, je vais me mettre à enregistrer toutes les chansons qui ne sont pas encore disponibles, que je joue en ce moment en Australie et que j'ai joué un petit peu en France, pour faire un EP. Parce que je voulais faire un album, mais en fin de compte, je sens que l'EP est bienvenu pour l'année 2025. Et continuer à écrire, et à peu près tout, ouais, voilà. Et des concerts aussi, mais pas de tournée à proprement dit, étant donné que je suis sur la fin du premier album. Donc aujourd'hui, il faut que je relance un petit peu l'écriture et pour redécoller peut-être ailleurs après, on verra.
Et vous, Malo ?
Bah, ce sera la sortie de mon deuxième album, normalement, en mai. Voilà, un album sur lequel je travaille depuis quand même pas mal d'années, 4-5 ans à peu près maintenant. Et j'ai très très hâte, et puis une tournée dans toute la France à minima, si je reviens pas en Australie d'ici là.
Et que diriez-vous aux gens qui nous écoutent, peut-être pour les encourager à venir voir les 4 derniers concerts qui restent ? Isée ?
Ben, on a un concept de soirée qui est vraiment magique sur le papier, je trouve, effectivement, comme disait Isée. On est tous différents, mais je trouve que le puzzle est très beau. Alors voilà, enfin pour moi c'est ma vision de ce concert-là. Je trouve
on est hyper objectif. Ouais.
Non, mais enfin ça fait un peu genre venez, on est super. Mais sincèrement, et c'est les retours qu'on a eu systématiquement, c'est que les gens arrivent au concert pour 99%, ils nous ont jamais vus, ils nous ont jamais entendus. Et ils repartent de là en ayant eu une soirée complète de quasiment 3 heures de musique avec 3 registres très différents. Et franchement, moi, j'aimerais bien être spectateur de cet événement-là. Bon, je suis sur scène, mais j'aimerais bien être spectateur en tout cas.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi.
Oui, c'est vrai.
On le vivrait bien.
En fin de compte, oui. On a des projets certes différents, mais l'enchaînement des 3 fait vraiment une évolution très logique et qui amène vraiment le public dans beaucoup d'états émotionnels différents. Et c'est pour ça, je pense que si on veut s'apaiser, rêver, danser, et ben cette soirée-là, elle est plutôt bien calibrée.
C'est beau.
Alex, je reviens vers vous, peut-être pour rappeler aux gens le site internet.
Ouais, pour acheter des tickets, donc solarsessions.com.au pour les tickets de Geelong, et sinon sur wildlife.com.au pour Castlemaine et Torquay. Et pour ajouter à ça, pour dire voilà pourquoi les gens devraient venir. En fait, c'est le retour qu'on a à chaque fois. Les gens en sortent de la salle en disant c'est incroyable, les 3 sont vraiment superbes. Ils sont tous très surpris parce que c'est quand même assez rare d'avoir 3 artistes qui ont ce niveau-là sur une seule soirée. Donc les gens repartent, ils sont bluffés. Et donc voilà, je crois que c'est la plus belle réponse. Elle vient des gens qui sont venus les voir et qui à chaque fois ressortent avec le sourire en disant merci, vraiment merci pour cette belle soirée.
Eh bien, merci à vous tous d'être venus. Et
merci beaucoup.
Et bonne continuation.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci.
Et voilà, c'était Isée qui nous interprétait « Perdre la tête, 13h, 57 minutes sur les ondes de Radio SBS ». Vous écoutez le programme en français. Et en fin d'émission, un rappel des titres de ce 16 janvier. Israël et le Hamas ont accepté un accord pour un cessez-le-feu à Gaza et la libération d'otages. C'est ce qu'a confirmé le Qatar, l'un des principaux médiateurs dans les négociations. La menace de fortes rafales de vent combinée à une humidité sèche mettra à l'épreuve les pompiers qui luttent en ce moment pour contenir les incendies à Los Angeles, Sydney, fait face à davantage de chaos ferroviaire ce jeudi alors que la grève se poursuit. Et voilà, nous arrivons presque à la fin de cette émission. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous le week-end pour le meilleur de nos podcasts et ensuite rendez-vous mardi prochain pour l'émission en direct, le live de mardi prochain. Belle fin d'après-midi, à très bientôt. Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.